Voilà. Avant peut-être de commencer le cours, juste un, effectivement, le dernier cours aura lieu le 13 mai. Hein, donc, désolé des sauts dans le temps. Je m'excuse encore une fois, c'est un peu moi qui ai traîné pour les dates. Ce qui n'est pas du tout dans mon genre. Hein, les gens qui me connaissent savent que c'est pas du tout mon genre. Mais ça sera le 13 mai, donc ça sera consacré au négationnisme de gauche. C'est l'immonde parmi les disons des gens qui se réclament de la gauche, du socialisme, etc. Des gens qui sont donc tentés par l'antisémitisme, voire même par le négationnisme. Donc aujourd'hui, on va parler de notre ami Mussolini. Donc je vous donne tout de suite ses dates pour le situer, hein, 1883-1945. Alors je vais pas évidemment, parce que j'ai pas le temps, j'aurai pas le temps évidemment aujourd'hui de vous faire tout un cours sur l'ensemble du personnage, hein. C'est un personnage extrêmement intéressant, hein, extrêmement complexe, extrêmement difficile à saisir, sans doute beaucoup plus, et pourtant il a fait moins couler d'encre, et sans doute beaucoup plus intéressant et complexe que d'autres dictateurs un peu du même acabit, Franco, Staline ou Hitler, qu'on arrive relativement bien à situer, on pourrait dire. Il y a une espèce de, à la fois de personnalité relativement claire qui se dégage, et puis un parcours finalement aussi relativement cohérent, hein, on pourrait dire, hein, si on regarde Franco tout petit, on peut dire, ou Hitler tout petit, enfin quand je dis tout petit, évidemment vous me comprenez, ou Staline tout petit, ben ma foi, il y a une certaine logique dans tout ça, hein, on peut voir qu'il y a une ligne directrice, une espèce de trajectoire, bien que les gens évidemment aient changé en fonction des circonstances, etc., mais il y a une ligne. Rien du tout. Je passe sur les éléments de personnalité aussi qui sont relativement cohérents chez ces personnages. Chez Mussolini, rien de tel. Le personnage est au départ un vrai socialiste, hein, et on va voir, c'est un vrai socialiste, hein, c'est pas quelqu'un qui est comme ça socialiste quand il était petit, ou même comme Mao par exemple, on avait vu qu'il avait flirté un petit peu avec l'anarchisme, avec un certain nombre de choses, etc., pendant quelques mois, pendant quelques années, mais la situation est différente, puisque à l'époque de Mao, on commence à connaître un peu les théories, hein, les ismes, donc on tâte un peu des ismes, hein, c'est des nouveautés, hein, donc on passe de l'un à l'autre, on regarde ce que c'est, on fait un peu son marché, etc., donc c'est normal que l'on ne s'attache pas véritablement, disons, à un isme particulier. Dans le cas de Mussolini, on va le voir, Mussolini, pendant 30 ans, est un vrai socialiste, et il va même devenir quasiment le premier socialiste, au sens, c'est quasiment le chef du parti socialiste avant-guerre. Dans les années 1912-1913, il est le directeur du journal du parti socialiste italien, Avanti, et il est aussi un des principaux dirigeants, presque même le chef, hein. Bon, c'est une direction un peu collégiale, donc c'est différent, difficile de parler d'un chef, mais enfin il fait partie des deux ou trois vraiment ténors, on pourrait dire, du parti socialiste italien. Il a toujours été socialiste, on va le voir, hein, depuis tout petit. Alors pour le coup, là vraiment au sens strict du terme, il a été socialiste. Et puis on retrouve évidemment ce personnage devenant fasciste et inventant entre guillemets le fascisme. En tout cas, c'est le premier fasciste qui prend le pouvoir, hein. C'est même un modèle pour Hitler, hein, qui va lui dire, hein. C'est une petite parenthèse, mais il y a des rapports très curieux entre Hitler et Mussolini. Mussolini, presque jusqu'à la fin, ne prend pas très au sérieux Hitler, hein. Il le trouve vraiment bizarre, il le trouve un peu fou, il le trouve vraiment traînant. Par contre, alors Hitler a une admiration pour Mussolini absolument extraordinaire, hein. Mussolini lui apparaît comme le grand et premier fasciste, hein, personnage qui a réussi. C'est le premier qui a installé, hein, ce régime, donc qui mêle encore une fois le socialisme et le nationalisme. Ce personnage qui devient fasciste, on va le voir, la Première Guerre mondiale joue un rôle extrêmement important, pas qu'en Italie évidemment, mais on va le voir aussi en Italie, et qui va devenir même à partir de 1935 et 1936 tomber dans un système totalitaire extrêmement radical et qui va se terminer absolument tragiquement avec la proclamation de la République de Salo en 1943, on n'ira pas jusque-là, et enfin l'exécution de Mussolini en 1945 et la République de Salo qui est vraiment un régime alors absolument affreux, responsable de massacres, etc. Donc, vous voyez, un parcours quand même, une trajectoire quand même assez extraordinaire. Bon, on n'aura pas l'occasion de discuter de la personnalité d'un petit peu de Mussolini, mais lui aussi est un personnage extrêmement complexe, qui a des moments de tristesse parce qu'il est obligé d'envoyer ses troupes dans tel endroit pour réprimer ses anciens amis. Il va aider des gens qu'il avait connu à l'époque du socialisme, qui se retrouve en prison, il va se débrouiller pour les faire sortir de prison, pour les aider. Un personnage donc à la fois hâbleur, qui est très prétentieux, etc., et puis en même temps qui est capable vraiment de gestes assez généreux, et vraiment un personnage extrêmement complexe. Donc, l'angle un petit peu d'attaque, évidemment, que je vais prendre aujourd'hui, en conformité avec les quatre cours, c'est les raisons, on pourrait dire, essayer de comprendre comment et pourquoi le nationalisme et le socialisme convergent, on pourrait dire, dans ce personnage et dans, on pourrait dire, l'idéologie fasciste, dans ces années, donc, 1922, on pourrait dire, puisque c'est la date de la prise de pouvoir par Mussolini. Alors, bien sûr, dans tout ce que je vais dire ici, il y a des éléments évidemment d'opportunisme, c'est-à-dire que si Mussolini à un moment donné s'oriente, essaie de s'allier avec les nationalistes, et aussi pour des raisons évidemment politiques au sens avec un petit p, on pourrait dire, bien évidemment, parce que c'est un personnage qui prend goût au pouvoir, qui veut y rester, et tout est propice évidemment à réaliser cet objectif. Bien évidemment aussi, il y a un élément évidemment de hasard extrêmement important. Pourquoi Mussolini réussit à prendre le pouvoir, comment se construit cette espèce d'alliance, c'est toujours dû aussi aux circonstances, au hasard, c'est extrêmement contingent évidemment, à tout moment il aurait pu avoir un changement évidemment mais l'idée globale, si vous voulez, c'est d'essayer de comprendre comment à un moment donné on pourrait dire une certaine partie de la gauche italienne et une certaine partie du nationalisme, on pourrait dire, italien va converger dans ce mouvement fasciste et permettre donc à Mussolini de prendre le pouvoir, et comment lui-même essayer de comprendre comment lui-même s'oriente, socialiste vraiment bon temps, orthodoxe par certains côtés. Bon, évidemment la question de l'orthodoxie du socialisme est très complexe parce que précisément il y a des tendances extrêmement variées, comment il y a une convergence dans la personnalité de Mussolini. Premier point, d'où vient Mussolini? Je pense que l'endroit d'où vient le personnage est un élément sans doute extrêmement important, dont on parle assez peu. Il vient d'une région qui est très particulière, qui s'appelle la Romagne, c'est une partie de la province qui s'appelle Emilia-Romagna maintenant, donc vers la région de Bologne, dans la région au sud de la région de Bologne. C'est un pays tout à fait particulier, parce que c'est un pays agricole, c'est un pays qui, contrairement à ce que l'on dit souvent quand on parle de l'histoire de Mussolini, aussi bien d'ailleurs ceux qui vont dans le sens d'un, disons, qui sont apologétique du personnage, aussi bien que ceux qui sont très critiques des personnages. On dit souvent que la Romagne, c'est une région très dure, et donc ça fait des gens très costauds, très durs, très, très virils, on pourrait dire, hein. Bon, il y a tout un... En fait, c'est pas vrai, c'est une région plutôt hospitalière, on pourrait dire, hein. C'est un pays agricole, de petites collines. C'est tout à fait dans l'Italie, globalement, c'est plutôt une région plutôt bien placée, hein, sur le plan de l'agriculture. C'est une région de vigne aussi, hein, le Sangiovese qui est très connu et qui est très bon. J'ai eu l'occasion l'été dernier d'aller dans cette région-là, et c'est une région assez accueillante et très très jolie et très très agréable. C'est surtout une région qui a une culture politique, on pourrait dire, qui est tout à fait particulière et qui explique sans doute un certain nombre de choses. Il n'y a pas que dans cette région qu'on a cette situation, mais c'est une région quand même où cette situation-là est assez frappante. C'est d'abord une région où le nationalisme italien est extrêmement fort, hein, où l'idée nationale italienne est extrêmement forte. C'est une région qui, depuis très longtemps, en fait, est, on pourrait dire, consciente politiquement, enfin, où se développent des mouvements politiques, bien avant même la tentative de réunification, enfin, la réussite, enfin, à moitié, on va le voir, de réussite de l'Italie. C'est une région qui appartient, en fait, c'est les États du Pape, hein, et c'est une région traditionnellement, une région où on résiste effectivement au pouvoir du pape. Hein. C'est une région où, qui est évidemment catholique, mais où il y a depuis très longtemps des mouvements, hein, de protestation, des mouvements, et qui deviennent au début du XIXe siècle, et qui, et tout ça évidemment se cristallise peu à peu à partir des années 1850. C'est une région qui est une région où on veut changer les choses, où on veut... réunifier l'Italie de manière assez forte. Donc c'est une région qui va beaucoup participer à toute l'histoire de l'unification de l'Italie, hein. J'ai pas le temps évidemment de vous donner tout un cours là-dessus, mais ça commence dans les années 1850. Hein, dans les années 1850, vous avez d'un côté le royaume du Piémont et de la Sardaigne, hein, avec la maison de Savoie. Vous avez une partie de l'Italie qui est sous contrôle de l'Autriche, vous avez une autre partie de l'Italie qui est sous le contrôle du pape, et enfin tout en bas vous avez le royaume des deux Siciles, qui sont en fait les descendants des Bourbons, hein, qui contrôlent tout. Et puis effectivement à partir de 1850, sous l'impulsion on peut dire du royaume de Piémont-Sardaigne, il y a un mouvement de réunification qui se cristallise dans les années, je passe, hein, il y a des tentatives diverses et variées de réunification, mais qui ne fonctionnent pas, et à partir de 1859 effectivement il y a une coalition entre donc Piémont-Sardaigne et la France, et qui permettent de réunifier une partie du territoire. Il y a des tractations, des mouvements avec Cavour, donc, qui est le premier ministre, hein, du royaume de Piémont-Sardaigne, et qui va réussir alors à récolter aussi des duchés qui étaient plus ou moins indépendants mais qui étaient sous contrôle quand même de l'Autriche. Et puis il y a la grande tentative de Garibaldi qui considère que c'est pas assez, hein, de pouvoir se contenter comme ça du nord de l'Italie et d'un certain nombre de régions du centre, et qui va lancer donc ses troupes au départ donc contre des en arrivant en Sicile, et puis réussir à conquérir en fait toute la péninsule, donc du sud. Le sud de la péninsule italienne, avec les armées aussi de Cavour qui interviennent. Alors l'histoire est très compliquée parce que en même temps Napoléon III veut protéger les États du pape, hein, ne veut pas que l'on récupère tout. On en récupère une petite partie, mais en même temps, bon, il faudra attendre en fait bizarrement la défaite de Napoléon III pour qu'il y ait une vraie réunification, c'est-à-dire que la région de Rome aussi, hein, qui reste des d'État du pape, soit tombe dans l'escarcelle de l'Italie et qu'on ait une véritable, disons, réunification du pays. Et ce, alors ce qu'il faut bien savoir, c'est donc cette réunification est extrêmement récente. Hein, donc Mussolini naît en 1883, c'est en 1870 que se fait la réunification, entre 1860 et 1870. Hein. Quand je dis réunification, c'est pas complètement, c'est pas total. Il y a encore quelques régions qui sont sous le contrôle, notamment de l'Autriche. Il n'y a pas, sur le plan géographique, disons, au sens strict, vraiment une réunification. Enfin, réunification, ça dépend évidemment de la définition qu'on donne de l'Italie, évidemment, parce que l'Italie, par définition, n'a jamais existé. Mais il y a une vague idée en fonction de la langue, etc. Et encore, puisqu'il y a des régions qui sont germanophones, mais qui sont réclamées, notamment le sud Tyrol par l'Italie, etc. Bon, évidemment, les questions de frontières, comme on le sait, sont absolument pas faciles à régler sur le papier, hein, puisque chacun a des très bonnes idées pour penser que les territoires X ou Y appartiennent à tel ou tel pays. En tout cas, pour revenir à Émilie-Romagne, c'est un pays vraiment, c'est une région vraiment où, disons, la saga de Garibaldi et puis de Mazzini, qui est un, disons, philosophe italien aussi extrêmement important. Donc Garibaldi, hein, c'est 1807 et 1800, il meurt dans les, je crois, 1875, je crois, j'ai oublié la date. Mazzini, celui-ci, c'est 1805-1877. Donc c'était des personnages, donc, qui sont des personnages absolument centraux de l'imaginaire, disons, de la réunification nationale. Mais ce qui est très important, donc, et c'est des personnages qui sont là, alors, à la jonction du nationalisme et du socialisme. C'est un élément extrêmement important, c'est-à-dire que en Italie, à la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, le socialisme, on pourrait dire la justice sociale et l'unification du pays, ce sont deux idées absolument identiques. Hein. C'est-à-dire que Garibaldi apparaît à la fois comme un personnage nationaliste italien, mais aussi un personnage qui est un républicain de gauche, qui est pour la justice sociale, pour le règne du peuple, etc., etc. C'est quelqu'un qui a, par exemple, beaucoup, qui a longtemps vécu en Amérique du Sud et qui a participé aux guerres de libération nationale ou aux putsch. En Uruguay, etc. Donc autour de ces grandes sagas, on pourrait dire, d'Amérique du Sud, qui sont à la fois des sagas de libération nationale, d'affirmation nationale et aussi de justice sociale. Hein. Donc ces deux éléments-là, déjà un peu, on pourrait dire, dans la gauche italienne, sont des éléments qui sont absolument impossibles, on pourrait dire, à rompre. On est, il y a aucune contradiction à être à la fois pour la réunification nationale, pour la récupération des territoires qui sont qui n'appartiennent pas encore à l'Italie, et donc cette idée de socialisme, hein, que l'on retrouve donc dans des personnages comme Garibaldi, comme Mazzini, etc., etc. Alors, la réunification est toute fraîche, elle n'est absolument pas complète, comme on vient de le voir, sur le plan territorial, mais à l'intérieur même du pays, ça c'est un élément fondamental, l'Italie n'est absolument pas un pays unifié. J'y reviendrai, hein, un petit peu plus loin, mais à la naissance, on peut dire, de Mussolini, et ça va pas tellement changer finalement après, l'Italie n'est absolument pas une unité nationale. Il y a une rupture absolument énorme entre le nord de l'Italie et le sud de l'Italie. Hein. C'est énorme. Quand on regarde toutes les statistiques, c'est absolument de tous les côtés. L'industrie, il n'y a quasiment pas d'industrie dans le sud. Toute l'industrie est naissante, hein, dans ces années 1870-1880, se trouve en Italie. Au contraire, au sud, vous avez 80 ou 90% des gens qui sont paysans. Hein, des différences de niveau de vie qui sont absolument aussi énormes, des différences culturelles qui sont aussi absolument gigantesques. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. L'Italie, à la naissance de Mussolini, n'est absolument pas un pays qui est unifié à l'intérieur, autour, on pourrait dire, d'une identité, hein, qui serait une identité commune, et une capacité aussi, on va le voir, à, disons, participer politiquement à la vie de l'Italie. Deuxième élément qui est important, c'est que on a en Italie en 1883, enfin dans ces eaux-là évidemment, vraiment une division sociale aussi qui est très forte, hein, pas simplement là géographique à l'intérieur, mais aussi extrêmement extrêmement forte socialement. On a d'un côté une grande bourgeoisie puissante, bon, donc qui va à la fois, disons, continuer à développer l'agriculture, on le verra, mais aussi à investir beaucoup dans l'industrie. Une aristocratie aussi qui est très forte, hein, il y a une aristocratie très consciente d'elle-même en Italie jusqu'à aujourd'hui. C'est encore important avec les grands palais, hein, évidemment, hein, toute cette imaginaire des palais romains et tout. Enfin bon, c'est encore extrêmement fort. Et puis il y a une espèce de masse qui est très indifférenciée, que l'on peut appeler le peuple, et d'ailleurs quand on parle de l'époque de socialisme, on parle du peuple, hein, un truc très indifférencié, qui est un mélange de d'artisans, de gens qui sont évidemment qui commencent à travailler dans les industries qui se développent au nord, mais aussi cette masse énorme de paysans, et au milieu on n'a pas grand chose, parce que ce que l'on pourrait appeler la petite bourgeoisie, hein, moyenne, hein, est extrêmement réduite en nombre, et surtout elle est extrêmement réduite en niveau de vie. Hein. Les gens qui sont au milieu, hein, les petits intellectuels, les petits professeurs, on va le voir d'ailleurs, et Mussolini est vraiment un exemple de ce genre de milieu, c'est des gens qui sont pauvres aussi. Hein. Donc si vous voulez, la plupart de la population, l'essentiel de la population vit entre une situation de misère, on pourrait dire, où voilà, on n'arrive pas à manger, etc., jusqu'à un niveau, disons, qui serait d'une espèce de petite classe moyenne, mais où il n'y a pas d'abondance. Hein. C'est une classe moyenne qui mange à peu près à sa faim, mais on ne mange pas tous les jours de la viande, loin de là. Hein. On a des difficultés à s'habiller, on a des difficultés à avoir des chaussures, etc., etc. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on retombe facilement, on pourrait dire, en arrière. Hein. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à monter un petit peu dans la hiérarchie, qui arrivent à garder, à acheter quelques terres, à acheter une petite échoppe, etc., c'est une situation très fragile. Il suffit d'une mauvaise récolte, il suffit d'une petite crise économique, et il y en a des crises économiques tout au long du 19e siècle, notamment dans la deuxième moitié du 19e siècle. Très rapidement, on retombe, on pourrait dire, dans la misère. C'est d'ailleurs le cas de la situation de Mussolini, donc en Romagne. Donc cette société italienne donc est extrêmement clivée là aussi, hein, et on a vraiment du mal, on pourrait dire, à faire en sorte qu'il y ait une partie de la population qui monte, hein, qui améliore sa situation. Très important aussi dans la société italienne de manière générale, mais aussi et peut-être plus qu'ailleurs dans la région de Mussolini, le rôle extrêmement important de la violence, hein, dans les rapports quotidiens. Alors c'est quelque chose qui n'est pas que propre évidemment à l'Italie. On en avait parlé, je crois, la semaine dernière à propos des mouvements de protestation au début du 19e siècle en France et même après la Première Guerre mondiale d'ailleurs. Il faut s'imaginer que les rapports sociaux sont des rapports de violence, c'est-à-dire que on se tape dessus assez facilement, on sort le couteau assez vite, hein, aussi bien en France qu'en Italie. Les protestations sont aussi extrêmement violentes, et donc quand on lit des choses sur les Émilie-Romagne de cette époque-là, on voit que les gens, très, hein, dans les balles, etc., on sort le couteau, on règle la question, et donc cette violence imprègne évidemment la vie quotidienne, mais elle imprègne aussi la vie politique. Très vite, on prend la faux, on prend la fourche, on va s'attaquer au symbole de la richesse et au symbole de l'État aussi. Hein. On brûle les mairies, etc., etc. On verra quelques exemples de ce genre de manifestations. Donc, c'est une région aussi, mais encore une fois, c'est pas totalement propre à cette région, mais là, ça prend peut-être plus disons de clarté, parce que donc le mouvement socialiste est relativement bien organisé en Émilie-Romagne. Donc il y a des groupes socialistes très tôt, dès les années 1860. Le père de Mussolini va participer à la création d'organisations socialistes, d'organisations syndicales, après des chambres du travail, etc., qui vont se développer. Donc les choses sont peut-être plus claires dans cette région parce que le socialisme y est mieux organisé, les gens, il y a un véritable milieu, il y a des réunions, il y a des meetings très tôt dans cette région, parce qu'il y a cette tradition de participation, on pourrait dire, au mouvement politique, avec donc toujours cette idée de la violence qui est très forte. Ce qui est aussi assez frappant dans cette Émilie-Romagne, c'est donc l'importance des mouvements socialistes globalement. Les premières en Italie, les premières mairies qui vont tomber dans le socialisme, ce sera notamment dans cette région-là, et surtout un fort sentiment anticlérical. C'est très compliqué, la religion et l'Italie, c'est-à-dire que les gens sont à la fois extrêmement anticléricaux, ils détestent les prêtres, en même temps ils font tous baptiser leurs enfants, leurs enfants va à la messe, on les met des fois dans les écoles catholiques, ils font leur première communion, etc. Donc une attitude très ambiguë, c'est-à-dire qu'à la fois à la maison on va dire pique-pendre des prêtres, etc., mais on va surtout pas oublier quand même d'aller à la messe et de faire les choses de base, etc., etc. Le personnage du prêtre étant continuant un peu à être sacré. Et Mussolini naît aussi dans ce milieu-là, avec donc une tradition où évidemment c'est les états du pape, donc on déteste le pape, en tout cas le pouvoir, matériel du pape est absolument honni, c'est vraiment un truc affreux, c'est-à-dire c'est les pires des pires, et on va critiquer les prêtres, on va critiquer les écoles catholiques, mais en même temps, par exemple, le père Mussolini, qui mange du curé à tous les repas, va mettre à un moment donné, bon, il n'est pas très content, mais il le fait quand même, mettre son enfant à l'école catholique. En France, par exemple, on ne pourrait pas imaginer un franc-maçon anticlérical et qui bouffe du curé mettre ses enfants à l'école catholique. Il y a une espèce de clivage très clair par rapport à ça. Là, c'est les choses sont plus complexes. Vous voyez déjà un petit peu la complexité de la chose. Alors, avançons un petit peu là, j'ai montré un peu le milieu, disons, de Mussolini. J'y reviendrai. Je vais faire des allers-retours sur l'Italie et sur Mussolini. Je voudrais revenir quand même très très rapidement sur la situation quand même de l'Italie. Je vous ai donné donc des indications, mais j'y reviens quand même un petit peu plus en détail. La fracture entre le nord et le sud, j'en ai parlé de manière extrêmement déjà un peu développée. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le sud, il y a un système alors qui est tout à fait différent de ce que l'on peut trouver en France à la même époque, c'est-à-dire qu'il y a très peu de propriétaires fonciers. Ça, c'est un élément qui est très particulier d'Italie, et d'ailleurs qui rapprochera l'Italie de l'Espagne aussi. C'est pas un hasard si aussi l'Italie et l'Espagne, ça se terminera aussi par un régime relativement proche. Le système latifondiaire qui domine, c'est-à-dire que ce sont des grands propriétaires fonciers qui possèdent énormément de terres et qui sont cultivés par des ouvriers agricoles. Très peu de propriétaires, surtout très peu de petits propriétaires, ce qui est le cas en France à cette époque-là, où il y a déjà, la plupart des paysans ont un morceau de terre, même si elle n'est pas très grande, et les paysans, disons, petits et moyens, constituent la grande majorité. Pas du tout. Il y a donc une misère à cette époque-là qui est extrêmement forte dans le sud de l'Italie, avec un sous-développement donc, qui est extrêmement fort. Le développement de l'industrie dans le nord a complètement ruiné les artisans du sud de l'Italie, hein, qui produisaient tout un ensemble de choses et qui pouvaient leur permettre justement de compléter un peu leur revenus. Et donc il y a un appauvrissement considérable de la population rurale dans ces années, donc fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ce qui est aussi extrêmement important à noter, c'est la véritable colonisation du sud de l'Italie par le nord de l'Italie. La réunification se fait par le nord, qui envoie leurs fonctionnaires, qui ont eux une vision alors très, à la française, on pourrait dire, hein, à la jacobine, c'est-à-dire on impose les règles pour tout le monde, on regarde pas ce qui se passe ici ou là, c'est tout pareil, etc. Ce qui crée évidemment de très gros mécontentements, évidemment, dans la population, et notamment c'est une des raisons du développement des mafias, hein. Les différentes mafias, hein, napolitaines, calabraises, siciliennes, etc., ont essentiellement comme origine, précisément, pas comme origine parce qu'il y avait déjà des groupes, mais qui étaient des groupes d'ailleurs plus politisés, d'ailleurs, de gens qui se réunissaient, pour lutter politiquement, mais très rapidement ces groupes sont devenus des groupes mafieux, le vocable que l'on utilise avec la définition que l'on utilise habituellement, c'est-à-dire c'est une résistance locale en fait à un pouvoir qui vient de l'État. Hein. On résiste à l'État, on s'organise entre nous, hein, pour échapper au contrôle de l'État. Et ça, évidemment, une des raisons de développement des mafias à cette époque-là, c'est précisément la tentative de mettre en place un contrôle, hein, sur les différents endroits. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il n'y a aucune unification culturelle non plus à l'époque. Hein. L'italien devient la langue officielle, hein, mais en fait tout le monde continue à parler son dialecte. La langue italienne est pratiquée par très très peu de gens. Hein. Elle est pratiquée par les aristocrates, par les grands bourgeois, un tout petit peu par cette petite élite dont je parlais tout à l'heure, hein, de mi-société, on pourrait dire, mais très fait. Il faut savoir aussi, donc il y a des difficultés. Par exemple, les fonctionnaires ne comprennent pas le dialecte local. Hein, ils ne comprennent pas ce que disent les gens, et les gens eux-mêmes ne sont pas capables de parler l'italien, disons, standard. Ça dépend des endroits, évidemment, mais globalement, il y a une difficulté quand même majeure de compréhension. Il y a aussi le fait que la population est extrêmement analphabète. Hein, dans les années 1800. En 1861, on sait que 80% de la population est analphabète. Hein, c'est énorme. Et en 1900, on est encore à peu près à 1 sur 2. Hein, une personne sur 2 en Italie ne sait ni lire ni écrire. Bon. Donc moi, ma grand-mère, par exemple, qui est née au début du 19e siècle, hein, qui a immigré en France, n'a jamais su ni lire ni écrire. Hein. C'était extrêmement commun encore à cette époque. Ce qui est extrêmement important aussi à noter, c'est que le peuple, de manière générale, est exclu de la politique. Il y a un système démocratique qui a été mis en place, mais un système démocratique un petit peu particulier, c'est-à-dire avant 1882, il y a 2% d'électeurs en Italie, 2% de la population vote. Hein. Il faut payer des impôts. Et des impôts qui ne sont pas très élevés, hein, je me souviens plus exactement, je crois que c'est 40 lire, hein, ce qui n'est pas une somme absolument énorme, mais il y a très peu de gens qui arrivent à payer aussi peu d'impôts, hein, 2%. On va étendre le suffrage en 1882, mais on en reste encore à 7%, en fait, on va abaisser la somme, disons, des impôts, on reste à 7%. Il faudra attendre 1913, en fait, pour que l'on ait un suffrage, disons, vaguement universel. Je ne parle pas des femmes, évidemment, qui sont exclues évidemment, à l'époque, c'était assez commun, disons. Par exemple, les illettrés ont le droit de voter en 1913, mais à condition qu'ils aient 30 ans, vous voyez. Donc, il y a des limites quand même, et on peut considérer qu'en 1913, il n'y a encore que 25% de la population qui participe aux élections, qui est quand même relativement limité. Ce qui est important aussi, donc, c'est que, bon, évidemment, ce pouvoir, du coup, est confisqué, hein, le pouvoir politique est confisqué par une petite minorité, et qu'en plus, il y a une gauche et une droite qui se refilent le pouvoir, on pourrait dire, mais dont les différences sont très très faibles. En fait, d'un côté, on a la grande bourgeoisie, la grande aristocratie qui est à droite, et la moyenne bourgeoisie, vaguement la petite bourgeoisie un peu installée qui est à gauche. Mais globalement, il y a extrêmement peu de différences, et il y a une culture du compromis, alors qui est une donnée de base, disons, qui va perdurer peut-être même jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire, dans le système politique italien, qui est le système du compromis. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de personnel politique, et ce personnel politique va s'entendre, hein, et puis on intègre peu à peu les gens qui sont à l'extérieur, hein, on va faire en sorte que les gens qui rouspètent un peu trop, bah, on va les faire entrer, disons, dans le système, hein, le système de clientèle, on est attaché à des personnages importants, et etc., etc. Mais là aussi, évidemment, qui dit personnel politique un peu clientéliste, dit limitation, évidemment, de la participation populaire, hein, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans le cœur du pouvoir, bah, vous n'avez absolument aucune chance pour peser, hein, sur les décisions, y compris même à un niveau relativement local, hein, parce que, bien évidemment, le clientélisme commence à des niveaux extrêmement bas. Ce qui est aussi très important à l'époque, j'ai parlé tout à l'heure, c'est, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est cette petite, toute petite bourgeoisie, cette petite, toute petite classe moyenne qui a beaucoup de difficultés à trouver du travail, par exemple, hein, des gens qui font des études, qui font des études moyennes, qui passent l'équivalent du baccalauréat, par exemple, sont au chômage, sont extrêmement pauvres, hein, parce qu'il n'y a pas de développement des services, hein, l'agriculture occupe quand même une grande majorité de la population, vous avez évidemment les ouvriers qui représentent une autre partie de la population, et en dehors de ça, au niveau des services, il n'y a quasiment rien, l'éducation est très peu développée, on vient de le voir, puisqu'il y a un taux d'illettrisme extrêmement faible, donc ça veut dire qu'il y a peu d'écoles, hein, il y a peu de collèges, il y a peu de lycées, il y a peu d'universités, donc il y a très peu, et la seule façon de trouver un travail, c'est finalement d'être pistonné pour devenir fonctionnaire. Mais là, devenir fonctionnaire, faut être du Nord, il faut avoir des accointances avec des partis politiques, vous voyez, le truc est un peu coincé. Et donc, il y a une pauvreté aussi chez ces gens-là. Voilà. Et globalement, évidemment, la situation politique est extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Bah parce que, globalement, la seule façon de se faire entendre, c'est l'insurrection, hein. Et effectivement, des années 1860 jusqu'en 1914, et ça se continuera après la Première Guerre mondiale, l'Italie, c'est une incessante chronique de révoltes paysannes, de gens qui prennent les armes, de gens ensuite qui vont faire grève, qui vont occuper des usines, des mouvements extrêmement durs, hein, c'est-à-dire qu'on envoie la troupe, on tire sur les paysans, on tire sur les ouvriers, etc. C'est vraiment la société italienne vit quasiment dans une situation constante d'insurrection, dès qu'il y a une petite crise économique, dès qu'il y a un problème, dès que les propriétaires fonciers baissent par exemple le prix de la journée de travail, dès que les patrons essayent aussi de gagner un peu plus, etc., immédiatement il y a des mouvements qui sont extrêmement violents, parce que précisément la seule façon pour eux globalement de pouvoir se faire entendre d'une certaine façon, c'est précisément en prenant les armes. C'est en prenant les armes où partant d'Italie. Un des grands problèmes aussi de l'Italie à partir des années 1860-1870, et ça va s'accélérer, c'est le départ évidemment de masses considérables d'Italiens un peu partout à travers le monde, d'abord relativement proches, puis après évidemment, regardez les trois quarts de l'équipe d'Argentine est d'origine italienne, etc. On peut donc des gens qui partent loin, qui sont pas, c'est pas de la petite immigration, donc une immigration évidemment italienne. Évidemment en France, mais c'est une immigration qui est vague. Et c'est chaque année, à partir des années 1870, c'est chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont partir. Le record étant atteint en 1913, où on a près de 900 000 Italiens qui quittent l'Italie. Ce qui est évidemment énorme. Alors, évidemment, certains reviendront, il y a des allers-retours, c'est compliqué, etc. Mais beaucoup ne reviendront pas, évidemment, on le sait. Et ça, c'est un problème. Pourquoi ? Bah, parce que c'est un problème d'humiliation constante pour l'Italie. C'est la honte, évidemment, pour l'Italie, qui se considère quand même une nation moderne, unifiée, qui prétend quand même à une certaine place dans le monde, et voir tous ces gens qui partent à l'étranger, c'est une honte. C'est-à-dire que l'Italie n'est pas capable de nourrir ses fils. Beaucoup de garçons quand même qui partent, en tout cas au départ, et pour une partie, n'est pas capable non plus de nourrir ses filles. Donc c'est vraiment une situation qui est absolument dramatique. Alors je reviens maintenant, après avoir dressé ce tableau un petit peu général, plus précisément à Mussolini, son origine familiale. Donc son père, Alessandro, est un révolutionnaire, lui déjà. C'est-à-dire, il naît dans une famille de révolutionnaires. Alors, de révolutionnaires particuliers, puisque je reviens à ce que je disais au départ, les idées dominantes dans la Romagne de l'époque, chez les socialistes, c'est un mélange de garibaldisme, nationaliste, c'est un mélange aussi de blanquisme, on avait parlé de Blanqui la dernière fois, c'est-à-dire cette idée d'insurrection, que le peuple s'insurge, avec un rôle très important d'une poignée de révolutionnaires qui peuvent pousser et obliger finalement le peuple à prendre le pouvoir. C'est aussi une région qui est très imprégnée par les idées anarchistes. On connaît beaucoup mieux Bakounine que Marx. Donc un socialisme, disons, très insurrectionnel, disons très peu, on pourrait dire, sociologique. On pourrait dire de cette manière. Il n'y a pas de réflexion vraiment sociologique sur la société et comment on va, en s'appuyant sur un certain nombre de couches sociales, pouvoir faire la révolution, etc. Toutes ces, imaginaires marxistes, on pourrait dire, où on va faire des analyses très poussées de la société, voir comment on va pouvoir agir. C'est quelque chose qui prend très peu d'action. Là, les ennemis, c'est quoi ? Les ennemis, c'est même pas les capitalistes, c'est même pas des gens bien précis, ce sont les riches, ce sont les nantis. Ce sont les gens qui ont le pouvoir. Donc c'est un groupe relativement étendu et relativement flou. En même temps, ce père donc très révolutionnaire, vous voyez, qui va participer à des mouvements, qui va casser du carabinier, qui va, etc., à plusieurs reprises, c'est en même temps quelqu'un qui vient d'une famille de la petite bourgeoisie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'étape précédente, son père avait des biens, avait un peu de terre, etc., mais il a fait de mauvaises opérations, il est tombé précisément dans la gêne et dans la pauvreté, et lui-même, en fait, va survivre essentiellement en cultivant un tout petit lepin de terre et en devenant forgeron. En fait, la profession principale du père de Mussolini, c'est d'être forgeron et cabaretier, ce qui se faisait aussi beaucoup à l'époque, c'est-à-dire on ouvre un petit cabaret, même en France, dans certaines régions, notamment de Mines, c'était une façon de sortir un peu de sa condition, d'avoir un petit établissement Minet, hein, on gagne pas grand chose, mais on gagne un peu, quoi, comme ça. En même temps, son café, c'est le rendez-vous de tous les gauchistes, on pourrait dire aujourd'hui, de la région, et ils sont très nombreux, hein, parce que, deuxième élément, il va devenir à un moment donné maire adjoint de sa ville, hein, de la commune en question. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, c'est pas un, ils sont pas trois ou quatre comme ça, hein, à être un peu excités, à boire des coups de Sangiovese et puis d'un bout d'un moment d'aller taper sur quelques carabiniers. C'est en même temps des gens qui sont, il y a des gens autour d'eux, hein, il y a une fédération, il y a une section de la fédération socialiste là, qui est d'ailleurs le responsable à un moment donné et le père de Mussolini lui-même. Et c'est un type qui est connu, hein, c'est un type qui est qui écrit des textes, hein, dans des journaux socialistes du coin. Et d'ailleurs, quand Mussolini va aller à l'école, on va savoir que c'est le chef des bandits rouges du coin. Hein. Il est connu aussi par évidemment les catholiques, la bourgeoisie locale, etc. Donc il est assez typique, vous voyez, de cette frange de la petite bourgeoisie un peu, mais qui tombe, hein, qui est tombée dans une certaine pauvreté, hein. On mange pas très bien chez les Mussolini, on tire le diable par la queue et on n'est pas très bien habillé, on fait ce qu'on peut, etc. Et en même temps, c'est un peu des intellectuels locaux, hein. Et la mère de Mussolini d'ailleurs est institutrice. Et chose très importante, on parle italien dans la maison de Mussolini, ce qui est très rare, hein. On va parler italien comme une espèce de marque de distinction en même temps. Donc on est du peuple, on est socialiste, en même temps on est un peu quand même une élite locale, hein. Il y a cet élément d'élitisme qui est très fort. Il va Mussolini chez les curés, hein, ça se passe assez mal. Ça se passe assez mal parce que bon, il aime pas trop ça, qu'il est assez bagarreur, hein. On a une image apparemment d'après les témoignages de quelqu'un qui est très bagarreur, qui même joue du couteau, hein, à 8-9 ans, mais c'est assez courant, hein. On a un canif, hein. Donc s'il y a quelqu'un qui vous embête, bon, on lui donne un coup de canif, hein. Il est renvoyé à un moment donné parce qu'il a donné un coup de canif dans la fesse d'un des élèves, parce qu'il y avait eu une histoire entre eux, etc., etc. Donc voilà. Donc il va d'abord chez Cure, ça se passe très bien. Ensuite, il va dans un collège public, et il rentre en fait dans une école, pour former des instituteurs, hein. C'est-à-dire, c'est à la fois un lycée, mais vous voyez, il y a déjà une école normale, on pourrait dire, hein, mais une école normale donc au niveau du lycée, hein. Bon, ce qui était le cas d'ailleurs, hein, aussi en France, hein. Il y a un certain nombre d'années pour former donc les instituteurs. Donc ça se passe plutôt bien d'ailleurs dans cette formation. Il a encore beaucoup d'histoires, hein. Il a des histoires avec des femmes aussi, hein. Bon, il y a tout un truc autour de Mussolini et les femmes d'ailleurs dans la biographie de Milza, grosse biographie de Milza sur Mussolini. Il y a un chapitre qui s'appelle Mussolini et les femmes, hein, parce qu'il avait, voilà, bon, etc. Donc il y a toute une histoire autour des femmes de Mussolini, sa mère, sa femme, ses maîtresses, etc. C'est très compliqué. Il est d'après ce qu'on peut savoir, donc c'est un élève assez sérieux, en même temps qui fait la bringue, hein. On pourrait dire aujourd'hui, il sort beaucoup, il boit des canons, il participe à des meetings socialistes qui se passent parfois assez mal. Il est on dirait assez macho, hein, pour dire même les choses un petit peu nain, parce qu'il raconte dans une autobiographie qu'il écrit en prison en 1913, qu'il raconte un viol, hein, qu'il effectue, mais bon, c'est pas du tout à l'époque vu comme quelque chose de, on pourrait dire, d'anormal, c'est-à-dire, bon, on, quand les femmes ont pas très envie, ben on les force un peu, puis ça fait partie un peu de, si vous voulez, de l'image du gars un peu viril, hein, du gars un peu quand même, etc., etc. Donc c'est une ambiance, hein, où la violence, y compris sexuelle, est quand même un truc aussi qui est qui fait partie un peu, on pourrait dire, du tableau. Donc il sort de cette école. Son grand problème quand il sort de l'école, et là alors il est vraiment typique précisément de ce milieu de jeunes intellectuels disons, locales, hein, et de jeunes tout petits bourgeois, on pourrait dire, hein, c'est qu'ils ne trouvent pas de travail. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont formés dans ces écoles normales, ils ne sont absolument pas répartis comme le faisait, hein, et comme continue à le faire l'État français, hein, où on envoie les gens dans les... Pas du tout. C'était à eux de trouver du boulot. C'est-à-dire que les écoles primaires étaient sous le contrôle des municipalités, et c'était les municipalités qui décidaient d'embaucher X ou Y. Et donc, on envoyait son dossier, et puis on jugeait. Alors, le fait, évidemment, qu'il ait une réputation de gauchiste n'allait pas, évidemment, dans le bon sens, évidemment. En même temps, c'est pas que lui, hein, les salaires, il faut voir que les salaires que l'on touche à cette époque-là sont des salaires vraiment ridicules. C'est-à-dire qu'il y a des... On passe... Le salaire de l'instituteur passe pour les 4/5 de son salaire passe dans son logement et dans sa pension, hein, qu'il prend chez quelqu'un. Hein. Les 4/5 disparaissent immédiatement là-dedans. Hein. Après, avec 1/5 de son revenu, il faut s'habiller, se soigner, acheter des livres, etc., etc. Donc, les salaires des professeurs et les salaires des instituteurs sont extrêmement, extrêmement bas. Il n'y a que les salaires des professeurs d'université qui sont à l'époque relativement élevés. Je veux dire qu'il y a très peu d'étudiants. Donc, évidemment, les étudiants qui vont dans ce genre d'université sont des gens, évidemment, de la haute bourgeoisie. Donc, le Mussolini, faut s'imaginer qu'il fait partie de ce milieu, on pourrait dire déclassé, doublement déclassé, c'est-à-dire venant d'une famille, vous voyez, qui était un peu au-dessus du lot, puis qui est retombée quand même relativement bas, mais en même temps, des gens qui ont un certain niveau d'éducation, qui ont donné une éducation à leur fils, mais le fils n'arrive pas à trouver du travail, et cette situation est extrêmement importante. Et là, il y a dans l'histoire de Mussolini un moment extrêmement important, qui est son exil, c'est-à-dire que finalement Mussolini va faire comme la plupart beaucoup d'Italiens, et beaucoup de jeunes Italiens, comme on l'a vu tout à l'heure, il va s'expatrier. Il va émigrer, et il va partir en Suisse. Il va partir en Suisse et un peu en France d'ailleurs, hein. Il va aussi graviter dans ces régions-là. Et de 1902 à 1904, c'est un moment essentiel évidemment de sa vie, il va partir en Italie et il va connaître tout à fait la vie de l'émigré italien, c'est-à-dire les boulots vraiment de très très bas étage, hein, de manœuvre, etc. Une pauvreté vraiment crasse, on pourrait dire, hein. Il dort sous les ponts. Hein, il en est réduit à dormir sous les plombs. Il est clochard pendant un certain nombre de semaines. Mussolini est clochard. Il ne mange pas. Il ne doit sa survie, en fait, qu'à une chose, c'est qu'il a quelques contacts, notamment grâce à son père et aussi au meeting auquel il a participé quand il était en Romagne, quelques contacts dans le milieu socialiste local. Pourquoi ? Bah parce que beaucoup de chefs du Parti Socialiste italien, qui est tout récent, hein, il s'est créé en 1895, donc c'est vraiment le début du grand parti socialiste. Il y avait des fédérations, des organisations, mais là il y a une unification du mouvement socialiste. Beaucoup des chefs, notamment après le grand mouvement de 1898, ont été obligés de partir d'Italie, de s'exiler. Vous voyez, c'était démocratique, mais quand même, bon, voilà. Et notamment en France et en Suisse. Et il y a donc une grande, donc beaucoup de chefs socialistes italiens sont en Suisse et en France à cette époque-là, et aussi beaucoup d'Italiens, évidemment. Et donc, il y a des organisations socialistes italiennes extrêmement fortes parmi les Italiens qui vivent dans cette région-là. Et là, c'est un peu ce qui va le sauver, donc, disons, de sa misère. Il va devenir secrétaire en fait du syndicat des maçons italiens, hein, en Suisse. Hein. Alors c'est pas un poste très bien rémunéré comme vous pouvez l'imaginer, évidemment, mais il va faire des piges en écrivant des articles dans des journaux socialistes. Il va de temps en temps travailler aussi comme manœuvre, etc. Il va essayer de vivoter, mais surtout ce qui est très important à cette époque-là, c'est qu'il va rencontrer des grands dirigeants socialistes. Hein. Il va notamment rencontrer un personnage très important qui s'appelle, qui est pas très connu, mais qui s'appelle Angelika Balabanov, alors qui fait partie de ces quelques, aristocrates russes absolument extraordinaires, comme Elisabeth Dmitriev, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a participé à la Commune de Paris. Ce sont des vrais aristocrates russes, hein, c'est-à-dire des gens qui étaient invités dans les bals avec, avec le tsar, etc., etc., hein, des vrais, etc., et qui abandonnent tout pour devenir socialistes. Hein. C'est des gens qui ont un niveau d'éducation extraordinaire, évidemment, qui parlent toutes les langues de l'univers. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine. Madame, voilà, elle parle parfaitement russe, évidemment, allemand, français, italien, etc., etc. Sans doute d'autres langues, anglais, évidemment. Donc des gens vraiment d'un niveau extraordinaire, qui se sont complètement consacrés donc au socialisme, qui jouent un rôle extrêmement important dans le mouvement international. C'est des gens qui vont jouer un rôle aussi important auprès de Lénine, etc. Hein. D'ailleurs, Mussolini a participé à des meetings avec Lénine à cette époque-là, hein, parce qu'il y a une agitation très forte en Suisse, hein, de toute la, finalement, de tout le socialisme, de tout le socialisme européen. Donc, c'est très important avec lui, pour lui, évidemment, et la rencontre avec Angelika Balabanov va être très importante, parce qu'elle va un peu devenir, alors non pas son amant, semble-t-il, parce que, semble-t-il, il n'y a pas eu de relation, sont restés platoniques, mais ils sont restés jusqu'en 1914, extrêmement proches, hein, l'un de l'autre, et elle va le former, on pourrait dire, hein, elle va lui faire lire Marx, elle va lui faire lire des tas d'autres choses. Elle va être ensuite, elle va écrire des choses très très dures évidemment sur lui, parce que vous imaginez, c'est elle qui a formé Mussolini, qui va devenir fasciste. Ça fait un peu, hein, ça fait un peu mal pour un dirigeant socialiste. C'est un peu, hein, bon, on se pose des questions évidemment. Donc on va dire pique-pendre évidemment de Mussolini après ça, y compris sur son comportement personnel, etc., etc. Mais en tout cas, pendant donc une dizaine d'années, ils vont être des gens extrêmement proches. Quand il va revenir d'ailleurs en Italie, elle va le retrouver aussi, etc., etc. Donc, très important, il voit aussi tous les chefs socialistes de l'époque, Serati, des gens comme ça, donc, il va beaucoup lire, il va lire Marx, etc., mais il va lire aussi Nietzsche, par exemple, et il va aussi lire Sorel aussi. Vous savez, on en a parlé un petit peu de Sorel, une espèce de personnage qui a joué un rôle très important dans la connaissance de Marx en France, et qui va aussi s'orienter vers des positions sociales nationalistes, hein, ensuite, fin du 19e siècle, début du siècle, etc., et qui va jouer un rôle très important ensuite, hein, dans la réflexion de Marx. Mais à l'époque, Sorel est toujours un socialiste, hein, enfin, il est considéré comme un véritable socialiste, etc. Il est très intéressé, notamment, et ça rentre évidemment dans sa culture, on pourrait dire, sur tout ce qui est dit chez Nietzsche, chez Sorel, sur les notions d'homme nouveau, création d'un homme nouveau, la question du surhomme, hein, la question de la production d'une nouvelle humanité, d'un nouveau genre humain, on pourrait dire, etc. Ça, c'est des choses qui sont très importantes pour dans la formation, on pourrait dire, de Mussolini, et qui rentrent tout à fait en accord, d'ailleurs, avec ce socialisme romagnol dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce jeu des chefs, hein, qui vont organiser des insurrections dans l'ombre, hein, les quelques personnages là qui sont comme Garibaldi, hein, les gens qui vont être à la fois des militaires, des professionnels de la révolution, des personnages d'exception, hein, tout ça parle, disons, au type de socialisme qui est présent dès son enfance. Alors, il revient ensuite en 1904 en Italie, et pourquoi faire ? Alors, ça peut paraître très curieux aussi pour un socialiste internationaliste, parce qu'à l'époque, il est quand même rattaché, hein, même si, il est plus intéressé par, encore, par l'anarchisme, par les blanquismes et par tout ça. En même temps, il côtoie le milieu international socialiste, et bien il vient faire son service militaire, tout simplement. En 1904, il rentre soit son service militaire, c'est un très bon soldat, jusqu'en 1906. C'est un très bon soldat, extrêmement bien noté par ses chefs. Hein. Vous voyez la complexité de ce personnage qui va s'enivrer dans les cabarets et ensuite taper sur les carabiniers, faire des mouvements, faire des violences. Et puis en même temps, bon, il rentre dans le rang, on peut dire. Hein. Il devient très 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 conciliant et il apprécie plutôt son temps de service militaire, alors que beaucoup à l'époque de jeunes socialistes justement fuient le service militaire. Hein, et justement, un certain nombre vont en Suisse, vont en France pour échapper à ce service militaire. Donc il rentre en 1904 et il revient en 1906. Alors on le laisse pendant quelques temps et on revient très rapidement à l'Italie, mais alors à une Italie plus récente, hein, les années 1914. Pour voir que toutes, finalement, les tendances que l'on a vues jusque-là de l'Italie viennent, ne font que s'aggraver. C'est-à-dire que tous les problèmes de l'Italie, hein, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parlera de l'homme malade de l'Europe, hein, à propos de l'Italie, tous les problèmes de l'Italie deviennent encore plus graves et encore plus compliqués à régler. Sur le plan politique, de 1901 à 1914, il y a un personnage qui est extrêmement important qui s'appelle Giolitti, qui est un des grands personnages de l'histoire politique de l'Italie, et qui a mis en place ce que l'on appelle le transformisme. Alors le transformisme, c'est quoi? C'est un continuel recyclage du personnel politique. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais lui, il en a fait une espèce de théorie globale. C'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre des gens qui vont représenter un certain nombre de forces politiques et de les faire rentrer dans le giron du gouvernement. Et d'ailleurs, il va faire toute une opération de séduction auprès des socialistes. Et pas mal de socialistes vont avoir du mal à résister, hein, et certains vont même rentrer peu à peu au sein des cabinets gouvernés par Giolitti. L'idée, c'est que Giolitti, qui est un type intelligent, il voit bien qu'il y a un problème social, il voit bien qu'il y a des insurrections, des mécontentements populaires, qu'il faut régler cette question-là. Et son idée, c'est quoi? C'est d'intégrer peu à peu des élites socialistes responsables pour avoir une force d'appui, pour appliquer des réformes sociales. Et effectivement, il, grâce à l'appui d'un certain nombre de socialistes, il met en place des réformes sociales. Notamment, il y avait un très très gros manque en Italie de lois sociales, hein, c'est-à-dire pour l'interdiction du travail des enfants, des femmes, etc. À l'époque, hein, début du 19e siècle, les enfants travaillent comme les enfants travaillaient très tôt, à 7 ans, à 8 ans, à 6 ans, comme on le faisait dans les années 1800, jusque dans les années 1880 en France. Les femmes travaillaient aussi dans des conditions parfois même pires que les conditions parce qu'elles avaient les boulots les moins qualifiés, etc. Donc il y a un développement de réformes sociales. Il y a une petite tentative tout à fait fragile de réforme rurale, de réformes donc des agraires, mais extrêmement limite. Il y a un tout début aussi de développement des cotisations sociales, enfin des systèmes de protection sociale, très avec des mutuelles et des choses comme ça, mais extrêmement limité. Le problème, c'est que le gouvernement et le gouvernement de Giolitti n'ont pas les moyens d'imposer ces lois. C'est-à-dire que le pouvoir politique est extrêmement concentré, mais en même temps, il est incapable de s'imposer envers les grands industriels du nord de l'Italie ou les grands propriétaires fonciers du sud de l'Italie. Ces gens-là ont la capacité d'avoir par exemple leur groupe de milices, on pourrait dire. Il y a des milices paysannes, il y a des milices aussi au service des grands industriels pour limiter l'application des mesures. Il y a aussi évidemment la corruption qui règne en règle dans l'administration italienne, ce qui fait que ces réformes qui apparaissent relativement limitées ont beaucoup de mal à s'appliquer. Le deuxième problème qui se pose politique, c'est que les progrès industriels, donc c'est l'époque du développement de la Fiat, de Olivetti, vous savez, les machines à écrire, etc., mais aussi dans toute la sidérurgie, dans le Nord. Il ne faut pas croire que l'Italie n'est pas développée industriellement à l'époque. C'est un pays très développé industriellement, mais dans des régions extrêmement précises de l'Italie. Et surtout, c'est un patronat qui donne des salaires extrêmement bas à la population. C'est normal, on pourrait dire, dans le contexte économique, c'est-à-dire que des bras, il en manque pas. D'ailleurs, les propriétaires, les journaliers, on les appelle les bracciantes, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec leurs bras, qui n'ont que leurs bras pour travailler, qui n'ont rien. Et les bracciantes, il y en a dans les campagnes, et ceux qui veulent plus travailler dans les campagnes, ils vont dans le nord et ils acceptent à peu près n'importe quel salaire, puisque c'est ça, ou partir donc en Australie, en France ou ailleurs. Donc il y a une volonté et une capacité du patronat à limiter les salaires à des niveaux qui sont extrêmement bas. Aucune véritable tentative de réforme agraire, il y a quelques lois mais qui ne sont absolument pas appliquées, et les salariés italiens sont en fait les moins bien payés d'Europe à cette époque-là. Donc là, il y a une espèce de pauvreté, disons, qui est toujours et peut-être même encore plus forte, avec des situations qui sont un petit peu différentes, parce que précisément les premiers syndicats se sont organisés, même dans les campagnes, il commence à y avoir des coopératives de gens qui s'organisent, de journaliers ou de gens qui commencent à s'organiser pour exiger une augmentation des salaires, etc., etc. Donc à la fois beaucoup plus, enfin, de la pauvreté qui s'étend, et en même temps des gens qui commencent à penser que l'on pourrait s'organiser pour pouvoir résister à tout ça, avec toujours une participation politique relativement limitée. J'ai dit tout à l'heure, en 1913, donc seulement 25% de la population qui vote, et avec une forte abstention, notamment dans le sud de l'Italie, où on a plutôt tendance, évidemment, à faire en sorte que les gens ne votent pas tellement. En face de ces problèmes sociaux, il y a un mouvement socialiste dont tout à l'heure j'en parlais, qui s'est développé, avec un mouvement socialiste. Alors, comme dans le cas d'ailleurs de la France, on l'avait vu, c'est un mouvement qui est extrêmement éclaté. C'est-à-dire que dans ce parti socialiste italien, il y a à la fois des gens qui se font élire députés et qui sont prêts à devenir ministres et qui sont prêts à rentrer dans les gouvernements. De l'autre côté, on a les internationalistes marxistes, pour qui ce qui compte, c'est la révolution internationale, planifiée, organisée, pensée, etc., etc. Et enfin, un troisième groupe, qui sont un groupe extrêmement varié, de socialistes révolutionnaires ou de syndicalistes révolutionnaires, dont on a parlé aussi la dernière fois, et qui sont, alors, eux, extrêmement aussi, alors divisé en groupes, en sous-groupes, etc. D'ailleurs, il y a une littérature énorme à l'époque. Chaque groupe, sous-groupe, a sa. C'est inimaginable aujourd'hui, mais dans chaque ville, par exemple, vous avez un hebdomadaire socialiste. Vous avez au niveau provincial, vous allez avoir un quotidien socialiste dans les endroits qui sont assez socialistes, etc., etc., avec des revues théoriques, etc., sans parler du mouvement syndicaliste qui a aussi ses propres journaux, etc., etc. Les journaux, c'est vraiment un truc très, très important, évidemment à l'époque. Donc, un mouvement socialiste extrêmement varié, où tout le monde, quand même, c'est inimaginable aujourd'hui aussi. Imaginez dans la même organisation, à la fois Manuel Valls et puis certains anarchistes, pas tous, parce que certains avaient été bons, enfin il y avait encore des anarchistes dans le parti socialiste, des gens qui étaient quand même pas très loin des idées. Bon, imaginez dans le même parti. Donc c'est un parti qui est à la fois relativement important, relativement bien structuré, en même temps complètement éclaté, hein, avec des positions évidemment complètement opposées, et sans parler évidemment des oppositions aussi régionales, parce que le socialisme napolitain, c'est pas le socialisme romagnol, c'est pas le socialisme des Pouilles, c'est pas le socialisme de Turin, évidemment, etc., etc. Donc avec un mouvement qui a beaucoup de mal, en fait, à se mettre d'accord sur une stratégie ou sur une politique relativement précise. Et ce qui est important à noter aussi, quand on parle de Mussolini à l'époque, c'est que Mussolini, alors où va-t-il se situer, disons, dans ce mouvement général? Quand il revient d'Italie, il réessaye de nouveau d'être professeur. Il essaie de nouveau d'avoir un poste d'instituteur. Bon, ça marche une année, puis un poste de prof aussi, etc. Mais ce qu'il veut, parce qu'il en a pris goût, évidemment, dans son époque suisse, c'est de devenir professionnel de la politique, et c'est de devenir journaliste politique aussi. Hein. Mussolini va toujours beaucoup, beaucoup écrire, hein, à l'époque, quand il sera même chef du parti, Duce, il continuera à écrire, hein, plusieurs articles par jour, même parfois, hein, dans la presse. Hein. Ça aussi, c'est quand même une particularité qu'on retrouve difficilement parmi d'autres dictateurs. Et il réussit relativement bien, d'ailleurs, puisqu'il commence tout en bas de l'échelle, donc dans sa région de la Romagne. Il devient directeur d'un petit journal socialiste, il devient aussi responsable un peu d'une organisation socialiste du coin. Il est très curieux parce qu'il est à la fois extrémiste, donc on peut ranger parmi les gens qui sont plus extrêmes dans le Parti Socialiste, qui sont pour les insurrections. Il va participer à des insurrections notamment rurales, etc., dans sa région. Il a une idéologie à l'époque qui est extrêmement floue mais qui est radicale. Hein, quand on lit ce qu'il écrit à l'époque, pour lui, en fait, la référence c'est le peuple. Il ne parle pas du prolétariat ou les choses de ce genre-là. Il parle du peuple de manière générale. Il considère que le peuple doit être guidé par une élite, hein, de syndicalistes, oui, ou de politiques. Donc la notion d'avant-garde socialiste pour lui est extrêmement importante. Il est extrêmement antidémocrate, mais il n'est pas le seul à l'époque, hein, on l'a vu, parce que la démocratie italienne est tellement rudimentaire que pour être démocrate, il faut vraiment être soi-même député, quoi, pour dire les choses simplement. Hein. Donc il est très antidémocrate, donc il est contre ces députés, ces hommes politiques qui mangent le pays, etc., etc. Il est évidemment extrêmement anti-bourgeois. Il a tout un discours sur la prise de risque, sur le fait que la violence est un élément fondamental de l'histoire, et aussi un élément fondamental de l'affirmation de l'individu. Hein. Il est très individualiste, hein. Il y a un côté anarchiste individualiste, on pourrait dire, affirmation d'une personnalité, hein, qui peut changer le destin finalement des foules. Il a évidemment aussi, qui est assez commun, cette haine du capital financier. Hein. On a vu que c'était aussi un élément très fort, hein, dans tout le socialisme, au profit du travail manuel. Alors il glorifie le travail manuel. Il a travaillé quelques semaines comme maçon. Alors pour lui, il est maçon toujours. Enfin, il y a tout un truc. Même quand il prendra le pouvoir, on le verra. Il y a des films où on le montre torse nu en train de faire la moisson dans les champs pour montrer la force, hein, de etc. Il y a un côté comme ça, mais qui est pas complètement joué, hein, parce que il a été forgeron avec son père quand il était jeune aussi, hein, donc il sait manier la forge, etc., etc. Mais bon, en même temps, c'est pas non plus, hein, un vrai travailleur manuel, on pourrait dire. En tout cas, il a pas énormément travaillé, disons, manuellement dans sa vie, mais il y a cette mystique, disons, du travail manuel. L'éthique des producteurs, hein, il faut donner le pouvoir aux producteurs. On retrouve des thèmes, hein, que l'on a vus aussi parmi un certain nombre de socialistes, etc. Et il est très nationaliste, hein. Il y a la question de la défense du peuple italien, du fait qu'il faut en finir avec l'expatriation des fils d'Italie, etc. Et d'ailleurs, il a des amitiés à l'extrême droite italienne, mais encore une fois, c'est pas complètement, disons, opposé hein, dans l'idéologie socialiste de l'époque. Hein. Il y a un certain nombre de gens que l'on peut classer à l'extrême droite parce qu'ils sont ultranationalistes, ils sont pour le retour du Sud-Tirol, etc., envoyer carrément des troupes, hein, et même des troupes de volontaires, hein, pour ils sont prêts à aller se battre contre les Autrichiens, etc., etc. Donc des gens qu'on classerait vraiment dans l'ultra-droite, disons, un peu voilà, de nationaliste. Mais c'est des gens qui ont en même temps des contacts avec les socialistes, hein, parce qu'il y a des socialistes qui sont d'accord avec eux en disant oui, la révolution, c'est aussi la révolution nationale, il faut retrouver nos territoires, il faut réaffirmer une industrie vraiment italienne, hein, locale, etc., contre les financiers, etc., etc. Donc, c'est voilà un peu son idéologie, vous voyez, qui est assez floue quand même, hein, qui est assez globale et dans laquelle on peut mettre finalement beaucoup de choses. Sur le plan plus personnel, quand il rentre en Italie, donc il devient peu à peu le chef en fait du Parti socialiste dans sa région natale de la Romagne, et son avantage, c'est que le Parti socialiste à l'époque italien devient de plus en plus radical, c'est-à-dire que ceux qui prennent le pouvoir à l'intérieur du parti, c'est les socialistes révolutionnaires, c'est les gens qui refusent la participation au gouvernement, qui refuse la participation donc aux élections, etc., etc. Et il va, disons, surfer un peu, on pourrait dire, sur cette vague. En même temps, c'est aussi la complexité du personnage, il va être très consensuel, parce que il faut, en Émilie-Romagne aussi, faire cohabiter des idéologies très différentes, hein, puisque le Parti Socialiste italien, c'est à la fois des gens qui collaborent et des gens qui collaborent pas. Bon, donc jusqu'en 1912, où les choses vont être un petit peu plus claires, où ça va être les socialistes révolutionnaires qui vont gagner, jusqu'en 1912, il faut qu'il manie un peu, disons, le consensus à l'intérieur de ses troupes. Mais il va réussir donc à surfer sur la vague de radicalisation des années, disons, 1910-1914. Pourquoi radicalisation ? Parce que l'Italie est dans une nouvelle crise insurrectionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de paysans qui se révoltent, il y a des dizaines de milliers d'ouvriers qui font grève, qui manifestent, etc., etc. Donc on est dans une situation où on a l'impression que la révolution, finalement, n'est pas très très loin. Donc, qui prend peu à peu les rênes du Parti socialiste italien, c'est précisément les gens qui sont les plus radicaux. Et Mussolini réussit un petit peu à surfer sur cette vague-là, et il devient, assez vite, hein, je passe sur les détails, mais assez vite, un des chefs du Parti socialiste. Il s'installe à Milan, hein, qui est le siège du Parti socialiste, et surtout il devient le directeur du quotidien socialiste de l'époque, L'Avanti, qui est un gros journal. C'est un journal qui a de l'influence, hein, qui est lu par... Et il devient un monsieur, hein, il devient un personnage important. Ce qui ne les empêche pas d'ailleurs, hein, dans cette trajectoire-là, de finir de temps en temps en prison. Hein. Il participe au mouvement insurrectionnel dont je parlais tout à l'heure, et en même temps, il est acclamé comme directeur de L'Avanti et comme dirigeant du parti socialiste. Et là, évidemment, il y a un changement, on pourrait dire psychologique, on ne va pas faire de la psychologie, évidemment, là, ce n'est pas le jeu, mais il y a un élément quand même psychologique important, c'est-à-dire que là, il va, à partir de ces dates, tout faire pour rester un monsieur. Il est devenu un personnage important, il n'est plus question pour lui, hein, de retomber, on pourrait dire, dans l'anonymat. Il y a cet élément, évidemment, qui est important et qui va jouer dans sa trajectoire, on pourrait dire, finale. Ce qui est évidemment déterminant dans cette trajectoire finale, ça va être l'épreuve de la guerre 1914-1918. Alors la situation évidemment en Italie par rapport à la France est tout à fait différente. L'Italie ne rentre pas du tout dans la guerre en 1914. Pas du tout, il faudra attendre 1915 pour que l'Italie rentre. Et paradoxalement, pendant toute la guerre, les Italiens, globalement, hein, le peuple italien n'est pas du tout pour la guerre. Ça ne les intéresse pas tellement, hein, globalement, la guerre. Et au départ, beaucoup de gens pensent que l'Italie ne va pas rentrer dans la guerre. On essaye d'attirer l'Italie, hein, les Allemands et les Autrichiens, et ainsi que les Français, etc., essayent d'attirer l'Italie dans leur raie. Au départ, d'ailleurs, parmi les gens qui sont minoritaires et qui voudraient que l'Italie rentre dans la guerre, il y a la plupart des gens sont d'ailleurs plutôt pour une entrée avec l'Allemagne. Ça paraît très curieux. On se dit quand même, Garibaldi a été aidé par la France, etc. Quand même, Garibaldi est même venu avec des troupes pour aider notre ami Napoléon contre l'Allemagne, quand même, etc. Oui, mais l'Allemagne, à l'époque, c'est une nation qui fascine les Italiens. Pourquoi ? C'est une nation qui, comme l'Italie, est toute récente, mais elle a fantastiquement réussi sa réunification. L'Italie, c'est un modèle de réunification, même dernièrement d'ailleurs, on pourrait dire d'une certaine façon, par rapport à d'autres cas. Bon, ils savent réussir leur réunification apparemment, ces gens. Donc ils sont fascinés. Et donc il y a plein de gens qui disent, mais il faut aller vers l'Allemagne, parce que l'Allemagne, regardez, c'est le pays qui compte, c'est le pays qui est important. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un fort mouvement anti-français chez les Italiens à l'époque. Pourquoi ? Parce que l'immigration italienne en France, on ne peut pas dire qu'elle ait été accueillie à bras ouverts. On peut dire que les Italiens de l'époque, c'est les Arabes des années 60 et 70. C'est-à-dire, on est bien content qu'ils soient là, mais bon, voilà, on n'a pas envie de les voir. On n'a pas envie, voilà. C'est exactement ce sentiment. Il y a des pogroms anti-italiens. Je vous ai parlé des morts, sans doute quelques dizaines de morts, peut-être même quelques centaines d'après les estimations italiennes. Même en regardez dans les archives. À Lyon, il y a régulièrement des cafés italiens, des magasins italiens qui sont pillés par les ouvriers français parce que, ils sont pas chers, etc., etc. Donc il y a un fort sentiment quand même en même temps anti-français. Donc enfin des sentiments ambivalents, disons ambigus. Donc ce qui explique que certaines personnes veuillent avec l'Allemagne et avec l'idée que si on aide l'Allemagne, on va réussir à récupérer des territoires qui sont italiens mais qui appartiennent à l'Autriche, en se disant on va peser sur l'Italie, etc. Enfin, il y a tout un truc. Les autres donc sont plutôt pour au contraire la lutte contre l'Allemagne et l'Autriche. D'un point de vue, c'est plus logique, en disant on va buter les Autrichiens et comme ça on va récupérer les territoires en 18, ils savaient pas que ça allait finir en 18 à l'époque évidemment, mais à la fin de la guerre on va récupérer les territoires. Et puis il y a une idée alors qui va faire de plus en plus son chemin dans l'opinion publique italienne, que par la guerre, l'Italie va régler ses problèmes internes. Parce que l'Italie, encore une fois, est dans une mouise totale en 1914, avec tout ce que j'ai expliqué. Et beaucoup de gens disent, pour devenir vraiment une puissance, c'est-à-dire à la fois à l'intérieur réunifier le pays, et à l'extérieur imposer l'Italie comme une puissance dominante, et même une puissance coloniale, parce que l'Italie a échoué pour l'instant avec une vraie une puissance coloniale. Bon, elle contrôle la Libye, à partir de 1900-1911, elle a un peu d'intérêt du côté de la Somalie, mais disons que les grandes puissances impérialistes ne veulent pas faire de la place à l'Italie. L'Italie arrive un peu bonne dernière, et voilà, et c'est pas le moment. Mais en se disant, bon, si on gagne la guerre, alors il faut choisir les bons évidemment, si on gagne les guerres, on va et en fait les gens qui sont plutôt en faveur d'un engagement avec la France et l'Angleterre vont en fait avoir de plus en plus d'influence, parce que il y a la bataille de la Marne et on voit que les Français ont l'air, finalement au début ils avaient l'air de prendre une dérouillée, finalement ils s'en sortent. On commence à se demander si ça va pas être plutôt les Anglais et les Français qui vont gagner. Donc vous voyez, la réflexion est très calculatrice. On n'est pas là dans la décision, hein, et c'est un élément important, on n'est pas là dans une décision, disons, sentimentale, hein. C'est pas l'affection, c'est pas la défense de l'identité nationale, c'est pas la défense du territoire national, c'est pas quelque chose qui parle au sentiment. C'est complètement réfléchi. Dans cette guerre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir gagner quelque chose, hein. C'est tout à fait de ce type-là. Alors évidemment avec évidemment tout autour cette idée quand même, hein, d'unification nationale. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que cette idée d'entrer dans la guerre n'est pas qu'une idée de droite, c'est aussi une idée de gauche. Dans la gauche socialiste italienne, cette idée que grâce à la guerre on va pouvoir faire la révolution, changer l'Italie, c'est une idée qui est extrêmement forte aussi. Il y a une partie de la gauche qui reste internationaliste et mais qui devient de plus en plus minoritaire, hein, qui est contre la guerre, mais il y a une grande partie aussi de la gauche qui devient interventionniste. Et pour des raisons très diverses, hein, c'est-à-dire les révolutionnaires disent, ben oui, mais si c'est l'Allemagne qui gagne, évidemment la révolution c'est terminé, parce que l'Allemagne c'est le conservatisme, c'est l'organisation, c'est etc. Et regardez ce qu'est devenu le parti socialiste allemand, c'est un parti qui n'est plus du tout révolutionnaire. Donc si on veut qu'on fasse la révolution en Italie, il faut aller du côté, hein, des anti-allemands. Donc, y a aussi cette idée, hein, qui est forte de l'homme nouveau italien, c'est-à-dire que finalement l'Italie, ce qui lui manque peut-être, c'est une bonne guerre pour former son âme finalement, hein. Toutes les grandes nations ont formé leur âme dans la guerre, et l'Italie aussi, hein, si elle veut se réunifier et si elle veut passer à la révolution, doit aussi fermement se confronter à cette guerre. Il ne faut pas oublier aussi un élément très important, c'est que les années 1900-1914, c'est des années de défaite du marxisme, hein, on pourrait dire. C'est-à-dire que la grande idée du marxisme, qui consistait à dire le capitalisme va s'écrouler, ne bougez pas, restez tranquille, de toute façon ça va tomber tout seul parce que logiquement le capitalisme va s'écrouler, c'est fini, hein, à cette époque-là. Et y a très peu de gens qui restent encore attachés à cette idée. Hein. Y a des idées, y a Lénine avec l'impérialisme, stat suprême, etc., etc. Mais ça a très peu d'influence globalement dans le socialisme. Dans le socialisme, il y a cette idée que finalement, Marx s'est peut-être trompé, que le capitalisme va peut-être s'en sortir. Regardez, en France, en Allemagne, on s'en sort, etc. Aux États-Unis aussi, hein, il y avait un mouvement socialiste très fort qui a quand même commencé à disparaître à la fin du 19e siècle, etc. Donc il y a cette idée quand même que on voit bien que la grande révolution internationale, c'est peut-être pas bien gagné et qu'il y a peut-être intérêt un peu à voir les choses, disons, au niveau plus national. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, à cette époque-là, c'est la grande rupture de Mussolini avec le socialisme internationalisme dont je parlais tout à l'heure, mais pas simplement, encore une fois, Mussolini. Il y a beaucoup de socialistes aussi qui le suivent, ou qui suivent en tout cas la même lignée. C'est l'idée que brutalement, Mussolini déclare que il faut intervenir au profit de la France, hein, et des Anglais. Il est exclu. Donc pour lui, c'est un grand truc, hein, c'est-à-dire qu'il se dit si je suis exclu du Parti socialiste, je perds tout. Hein, je suis devenu quand même un personnage important. Bon, et ben malgré tout. Peut-être aussi parce qu'il a l'impression qu'il passe à côté d'un virage important, il décide de devenir interventionnaliste, il est exclu du Parti Socialiste, il crée immédiatement son propre journal, qui s'appelle Il Popolo d'Italia, qui va devenir un grand journal aussi, un grand quotidien. Hein. Et évidemment, alors, ce que j'ai oublié de dire évidemment, c'est que le camp interventionniste était évidemment financé à la fois par les industriels italiens, qui eux avaient bien envie qu'il y ait la guerre, évidemment, parce qu'ils voyaient les commandes, etc., etc. Donc les milieux industriels sont plutôt pour la guerre, évidemment. Ils ont de l'argent, donc ils financent évidemment les groupes, et ils vont financer d'ailleurs aussi le Popolo d'Italia, évidemment. Mais aussi les Français. Les Français vont verser évidemment de l'argent, hein, parce que évidemment les Français ont tout intérêt à ce que l'Italie évidemment intervienne dans la guerre. Mussolini donc devient un personnage, continue à être un personnage très important, mais devient interventionniste de gauche, hein, donc voilà, ce que va faire d'ailleurs l'ensemble du Parti Socialiste français, hein, quasiment. Là, c'est une partie seulement, minoritaire, mais quand même importante, hein, du Parti Socialiste qui va rentrer dans la guerre. Lui-même va faire la guerre, il va être blessé aussi grièvement. Ça aussi, c'est un truc un peu particulier quand même, hein. C'est rare que les dictateurs quand même s'engagent aussi en avant, si vous voulez. Donc, hein, il est blessé très, très grièvement, il risque de mourir. Hein. C'est pas une foulure du doigt de pied, il est blessé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout au long de la guerre, et on va le voir jusqu'en 1920, Mussolini reste socialiste. C'est-à-dire que pour lui, et pour beaucoup de socialistes italiens, rentrer dans la guerre, faire la guerre, ce n'est pas du tout rompre avec le socialisme, c'est rompre avec effectivement un certain socialisme, qui est le socialisme marxiste internationaliste. Mais, encore une fois, beaucoup de socialistes n'adhèrent pas au marxisme. Hein. Le marxisme en Italie, comme le marxisme d'ailleurs en France, c'est pas... il faudra attendre en fait 1917, finalement, pour que le marxisme devienne la doctrine, on pourrait dire, officielle du socialisme, on pourrait dire encore... Bon, socialisme qui s'adhère pas, enfin, disons, va devenir quand même le cœur, on pourrait dire, quand même, du socialisme italien, comme il va devenir le cœur, d'une certaine façon, du socialisme, en tout cas, socialisme révolutionnaire, on pourrait dire, disons, de la France. Jusqu'en 1914, le marxisme ne joue pas un rôle fondamental, hein, et en tout cas, s'il y a, au niveau du Parti Socialiste, des Italiens ou Français, des intellectuels, disons, qui se réclament du marxisme, au niveau très local, au niveau, disons, des ouvriers, au niveau des militants socialistes, ils sont assez peu marqués finalement par ce marxisme. Donc, il y a des ressources pour rester socialiste sans être internationaliste et sans être marxiste. Et c'est ces éléments-là, en fait, que veut valoriser Mussolini. Son idée à Mussolini, mais c'est l'idée aussi de la gauche et c'est l'idée aussi du peuple italien qui va combattre donc pendant la Première Guerre mondiale, c'est, grâce à la guerre, instaurer le socialisme. C'est-à-dire, il y a un grand espoir, hein, comme il y aura aussi d'ailleurs un grand espoir en France aussi, hein, après, qu'on va rentrer, que la guerre va permettre, d'ailleurs en 1945 aussi, c'est un peu ça, qu'il va y avoir une nouvelle société. Bon, les gens vont être assez déçus, mais la guerre, c'est pas simplement la guerre, c'est aussi... espèce de moment un peu particulier qui va permettre l'unification de la nation et faire en sorte que les réformes qu'on n'a pas pu faire en temps de paix, finalement, on va les faire en temps de crise, hein, en temps de guerre, parce qu'il va y avoir une espèce d'unification nationale. On va tous combattre dans les mêmes tranchées, on va tous combattre le même ennemi, donc du coup, on va créer quelque chose de donc il y a quand, c'est ce qu'écrit Mussolini pendant la guerre, c'est ça, c'est-à-dire, c'est cette idée que le socialisme va être imposé grâce, finalement, à la fraternité des tranchées, pour aller peut-être un petit peu, qui va créer l'alliance du peuple italien contre les riches, contre les nantis, contre les aristocrates. Après la guerre, là, il va y avoir une déception absolument terrible, évidemment, dans d'autres pays aussi, mais en plus en Italie, vu la situation avant la guerre, on sort de la guerre dans une situation encore pire, si ça peut être possible, par rapport à celle que l'on est, pire que celle qui était celle de l'Italie, donc à l'entrée en guerre. L'Italie sort complètement économiquement dans une situation absolument dramatique. Les finances sont complètement vides, l'Italie est obligée d'emprunter... de partout. Il y a eu certes un développement industriel et les industriels s'en sont mis plein les poches évidemment, mais parce que ils étaient aidés par l'État évidemment, hein, c'est-à-dire que les prix étaient maintenus à des niveaux relativement élevés parce que précisément il y avait des commandes fortes évidemment de l'État en matière de sidérurgie, etc., etc. Mais l'industrie s'écroule complètement à travers la guerre parce qu'elle n'a plus de débouchés. Hein, c'est-à-dire que le commerce intérieur, le marché intérieur est extrêmement faible puisque les Italiens continuent à être extrêmement pauvres. Hein, toujours cet écart entre une très petite frange de très riches et une grosse frange de pauvres, de moyennement pauvres, on pourrait dire, est toujours là. Donc, le commerce est très faible. Les possibilités d'exportation sont extrêmement faibles parce que les industriels ont eu l'habitude que l'on achète les produits à n'importe quel prix et donc ils ont absolument pas un outil de production qui soit performant pour obtenir des marchés à l'extérieur. Donc là, l'industrie s'écroule, l'agriculture aussi, ce qui est assez grave, s'écroule aussi parce que évidemment les hommes sont partis à la guerre, hein, et beaucoup ne sont pas revenus. Il y a quand même eu, je crois, 670 000 morts pendant la Première Guerre mondiale en Italie, quand même, hein, pour un pays qui a commencé relativement tardivement les opérations militaires, c'est tout de même une ponction extrêmement forte. Donc la situation est dramatique. Et surtout, l'Italie, contrairement à ce qu'elle a cru, ne va pas tirer parti de la guerre. C'est assez bizarre, on pourrait dire, mais les Italiens vont même être humiliés au traité de Versailles, pas autant évidemment humiliés que l'Allemagne, évidemment, mais enfin ça, on peut penser que évidemment les gens qui perdent la guerre, en général, on les traite pas d'une manière très sympathique, mais l'Italie, qui a quand même gagné la guerre, s'attendait à ce que, d'abord, très rapidement, on lui redonne tous les territoires qu'elle veut, notamment dans Vénétie, et puis une partie l'actuelle Slovénie, Fiume, une ville qui est carrément Slovénie, mais très, quand même très, très bas, etc., etc. Enfin, toute une partie des territoires qui sont censés être italiens. On pensait que l'Italie aussi allait être soutenue dans son effort de colonisation à l'extérieur aussi, pour éviter notamment que se perpétue cette expatriation globale, etc., etc. Et surtout, ils sont humiliés, mais vraiment dans la façon dont on les traite, quoi. C'est-à-dire que les diplomates italiens sont vraiment traités comme si c'était eux qui avaient perdu la guerre, quoi. Et ça, c'est très très mal ressenti en Italie. Il y a à cette époque-là un sentiment d'humiliation, d'avoir été maltraités alors qu'ils ont fait des sacrifices dramatiques, qui est extrêmement fort. Sur le plan politique aussi. La déception est énorme dans la population, parce que on s'attendait à des grandes réformes agraires, on s'attendait à des grandes réformes sociales, absolument rien après la guerre, hein, parce que on continue à avoir une classe politique complètement incapable d'appliquer quoi que ce soit, complètement sous la coupe, on pourrait dire, d'industriels conservateurs à courte vue qui n'ont absolument aucune envie en fait de réformer le pays, et les choses se passent évidemment extrêmement mal. Il y a de nouveau des situations insurrectionnelles où carrément on crée des conseils ouvriers, hein, dans les grandes usines. On est presque en 1917, hein, conseil ouvrier dans les grandes usines du nord de l'Italie. Dans le sud de l'Italie, carrément, des zones entières sont gérées par les paysans eux-mêmes, hein, il y a une espèce de communisme, entre guillemets, ou de coopérativisme, on pourrait dire, paysan. On envoie de temps en temps la troupe, pas suffisamment, en fait, pour réduire, évidemment, les choses, mais suffisamment, quand même, pour tuer à chaque fois quelques dizaines de paysans ou quelques dizaines d'ouvriers à chaque fois. Hein. Il y a à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la semaine sanglante, hein, qui est vraiment absolument dramatique. Mais il y a aussi d'ailleurs des militaires qui sont tués, etc., etc. On va dans les manifestations avec des armes. Hein. On plaisante plus. Donc une situation absolument dramatique. Et alors, ce qui est intéressant pour revenir à notre ami Monsieur Ni, c'est qu'à l'époque, dans les premiers temps donc de cette Italie post-italienne, mais post-guerrière, il reste alors tout à fait sur des positions révolutionnaires, syndicalistes révolutionnaires, et il soutient même au début un peu ces mouvements protestataires, mais dans le même temps, alors il s'allie il se rapproche de plus en plus vers les nationalistes qui prennent alors à l'époque une importance énorme. C'est-à-dire que tous les anciens combattants, évidemment, ont beaucoup de mal à se refaire à la vie civile. C'est des gens qui sont combattus. Certains, pendant plusieurs années, ont été blessés, etc., qui reviennent à la vie civile, qui n'ont pas de travail, qui ne sont absolument plus rien, qui voient que l'Italie est à feu et à sang, que finalement l'Italie a été humiliée, etc., et se constituent des groupes ultranationalistes qui sont très forts et qui sont très importants, et notamment il y a un personnage très connu, ça s'appelle D'Annunzio, qui va être un peu la figure un peu de proue de ce milieu, disons, ultranationaliste, mais qui est encore une fois un milieu ultranationaliste qui n'est pas contre des réformes sociales, qui n'est pas contre discuter avec les socialistes, et Mussolini, qui a eu toujours des accointances avec ces gens-là, continue à les Il rêve encore à l'époque de créer en fait un espèce de socialisme national, on pourrait dire, d'un État qui serait un État à la fois producteur et protecteur, hein, c'est-à-dire producteur en sens c'est lui qui prendrait en main l'industrie, le développement de l'économie, etc., qui serait protecteur aussi parce qu'il permettrait effectivement par le développement des assurances sociales, etc., des réformes agraires, de faire en sorte que le pays soit et les réformes nécessaires, un régime qui sera évidemment, on pourrait dire, dictatorial, enfin en tout cas avec un pouvoir relativement fort d'une certaine élite, et qui serait cette élite? Ce seraient les anciens combattants, hein, qui seraient ces hommes donc qui se sont sacrifiés, hein, camarades se sont sacrifiés pour l'Italie, qui seraient à la tête, donc une société quand même relativement hiérarchisée en même temps, avec quand même des espèces de surhommes comme ça qui viendraient gouverner, qui auraient la légitimité finalement pour gouverner l'Italie. Et très anti-bourgeoise, évidemment, hein, c'est-à-dire il faut confisquer les propriétés, disons, des grands propriétaires, il faut confisquer les grandes usines, etc., il faut que ces gens-là rendent gorge, etc. Donc, vous voyez, un programme qui est déjà à la fois socialiste et national, on pourrait dire, hein, bien entendu, mais qui est sur les deux, vraiment sur les deux bords, hein, etc. Alors, et il crée d'ailleurs en 1919 une organisation, hein, des célèbres avec des fasces, c'est-à-dire des faisceaux, hein, des organisations, des groupes, etc. Avec dedans d'ailleurs beaucoup de gens qui étaient interventionnistes de gauche. Hein. On trouve des anciens anarchistes, on trouve des anciens syndicalistes révolutionnaires, on trouve des gens, hein, qui sont extrêmement variés, mais où la connotation socialiste est tout de même présent. Alors, le grand problème, évidemment, de Mussolini, c'est que son objectif, évidemment, est de prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il décide de participer aux élections de la fin de 1919, et il s'allie avec quelques petits partis, quelques groupes républicains, sur la base de son programme que l'on vient de voir, qui est un programme un peu vague, hein, on pourrait dire, qui est un programme un peu, bon, attrape-tout, on pourrait dire. Hein, bon. Le problème, c'est que la défaite électorale est absolument totale. C'est-à-dire que, alors, contrairement à ce qui a pu se passer avec Hitler, hein, à certaines époques, ça va pas du tout marcher. Hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas réussir, hein, à trouver un espace, on pourrait dire, politique, qui serait cet espace de gauche nationale, hein, qu'il voudrait occuper. Et là, il a vraiment un moment un peu intense, hein, de réflexion, savoir quel va être son avenir politique, etc. Alors, Le problème, c'est que il a pas tellement de choix, c'est-à-dire que il faut qu'il rebondisse. Comment peut-il rebondir dans une situation, et ça, bon, ça, d'une certaine façon, ça va être sa chance, comme malgré tout, dans une situation, encore une fois, qui est insurrectionnelle. Hein. L'Italie est à feu et à sang, et donc elle va être finalement la solution qu'il va trouver. En fait, il va s'orienter vers, alors cette fois-ci, une rupture, on pourrait dire, avec la gauche, et évoluer, on pourrait dire, vers la droite, vers la frange droite, on pourrait dire, sous le coup, en fait, de trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est que, première raison, on pourrait dire, c'est que il est battu. Il n'a plus de troupes, on pourrait dire, puisque finalement tous les gens qu'il avait réussi à rassembler dans ces fâches, ils sont partis à cause de la défaite électorale, et en même temps il ne veut pas renoncer à son statut, c'est-à-dire que il ne veut pas rentrer dans une organisation déjà existante, il ne veut pas devenir numéro 2, il ne veut pas devenir numéro 3, il a pris goût hein, au pouvoir, et surtout il a pris goût à devenir un personnage important, parce que aussi bien à l'époque socialiste qu'à l'époque donc où il était interventionniste de gauche, il est devenu un personnage important. Il a commencé à côtoyer des personnages importants, c'est-à-dire que on invite Monsieur Mussolini à sa table. Il va à la Scala de Milan voir des opéras, ce qui est extrêmement important, si vous voulez, pour un personnage de ce type-là. Il a un appartement, il s'habille correctement, il est devenu... Donc, il ne peut pas, s'il veut continuer à vivre cette vie un peu de leader politique, il ne peut pas accepter finalement de rentrer soit au Parti Socialiste, finalement, il aurait pu peut-être renégocier avec ses anciens camarades, ça aurait été difficile sans doute, mais on ne sait jamais, il n'aurait pas pu rentrer non plus dans un autre parti. Deuxième élément qui est très important, il est extrêmement isolé, c'est-à-dire que il n'a plus aucun contact avec d'autres partis politiques, et finalement, les seuls qui veulent bien de lui aujourd'hui, ce sont ses ennemis d'hier, c'est-à-dire ce sont les grands bourgeois, ce sont les grands propriétaires fonciers, qui eux sont prêts éventuellement à s'allier avec lui sur des bases de regroupement avec les ultranationalistes et sur les bases du retour à l'ordre. Du retour à l'ordre, et donc d'une certaine façon de soutenir malgré tout les forces, on pourrait dire, d'élite, hein, les gens qui sont au pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui étaient dans les fâches et qui étaient plutôt bon des gens divers, mais dont des gens de gauche, sont remplacés peu à peu comme adhérents par des nationalistes. C'est-à-dire que la composante nationaliste devient de plus importante dans ce... Et finalement, quand on regarde les choses de près, Mussolini, on peut dire, est entraîné dans une espèce de logique. Où il devient un peu le supplétif finalement de la classe dirigeante italienne qui, elle, est incapable finalement de remettre de l'ordre. Qu'est-ce que va faire finalement cette classe dirigeante ? Elle va décider de soutenir Mussolini à condition qu'il remette de l'ordre dans l'Italie. En gros, c'est la raison de la victoire, on pourrait dire, de Mussolini en 1922, c'est que on vous donne les clés du pouvoir, vous faites un peu ce que vous voulez, vous maltraitez un peu qui vous voulez, à condition que on retrouve un minimum d'ordre, hein, que par des petites mesures éventuellement sociales, que par des choses de ce type-là. Bon, et effectivement, les troupes de Mussolini vont devenir des troupes qui vont rétablir l'ordre, aussi bien dans les usines que dans les campagnes. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont pourchasser les troupes socialistes, les syndicalistes, les gens qui s'étaient organisés au niveau des coopératives, etc., dans les campagnes. Donc, on voit bien comment, finalement, ce milieu, on pourrait dire, autour de Mussolini, de gens anciens combattants en faveur de réformes sociales, mais qui en même temps ne croient plus au socialisme internationaliste, au prolétariat et à ces grandes, sont amenés peu à peu finalement à devenir les supplétifs des classes dirigeantes parce que précisément, en Italie, les seuls qui peuvent rétablir l'ordre, finalement, ce ne sont pas les socialistes, parce que les socialistes, enfin les dirigeants du Parti socialiste ont été incapables, en fait, d'utiliser les mouvements sociaux pour véritablement prendre le pouvoir et faire une Italie socialiste. Hein. Ça leur sera beaucoup reproché d'ailleurs. Hein. Historiquement, beaucoup de gens ont dit bon là il y avait une opportunité de prendre le pouvoir, vous l'avez pas saisi, parce que il faut dire aussi que les dirigeants de l'époque du Parti socialiste de l'époque, ce sont des dirigeants qui sont eux-mêmes assez embourgeoisés, qui sont pas très aventuristes, et tous ces conseils ouvriers, même ça leur fait un peu peur. Hein, ils se disent qu'on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller. Eux, ils sont beaucoup plus pour l'organisation de mouvements beaucoup moins spontanés, plus tranquilles, moins insurrectionnels, pour un passage, on pourrait dire, révolutionnaire, beaucoup plus doux et tranquille. Et ils n'ont pas saisi effectivement ce mouvement, ce moment révolutionnaire, etc. Donc les socialistes, on pourrait dire, sont hors champ. La classe dirigeante italienne est incapable de même de faire le ménage, de réorganiser tout ça, etc. Finalement, il y a une espèce de vide politique que Mussolini, finalement, avec son bric-à-brac, on peut dire, de socialisme, de nationalisme, de retour à l'ordre, d'idées des groupes de gens un peu élitaires qui vont reprendre le pouvoir, etc., va remplir finalement ce vide, on pourrait dire, et créer donc cette Italie fasciste. Alors, en conclusion, bon, vous voyez que j'ai encore été une fois bavard et je vous laissais peu de place pour les questions. J'espère que vous, en votre grande bonté, vous me pardonnerez de nouveau. Une petite conclusion sur à la fois, si vous voulez, ce que l'on a fait la dernière fois et ce qu'on a fait aujourd'hui, on pourrait dire le socialisme d'une certaine façon, ou cette espèce de convergence entre certaines idées socialistes et certaines idées, on pourrait dire, nationalistes. Ce qui est important, je crois, à retenir dans le socialisme, en tout cas tel qu'il s'est développé jusqu'en 1914, c'est que ce qu'ont en commun finalement les socialistes, c'est une idée générale qui est de changer la société, hein, et de donner le pouvoir au peuple. Mais que au-delà de ça, finalement, il y a une espèce d'archipel de considération, une archipel extrêmement éclaté d'idées. Qui sont pas très, cohérentes, on pourrait dire, entre elles. Hein. Entre, par exemple, les réformistes qui vont peu à peu accepter de participer au gouvernement, qui vont refuser la violence, qui vont accepter un petit peu le jeu, plus ou moins, hein, des élections, etc., etc., d'un côté, avec l'idée de compromis, etc., de notre côté, les marxistes qui sont pour la violence, mais violence organisée, planifiée, pensée, etc., avec le matérialisme historique, hein, qui est la clé un peu de tout ça, et d'un autre côté, des révolutionnaires qui sont à la fois les enfants du jacobinisme, du blanquisme, mais aussi des sociétés secrètes, hein, des carbonari par exemple, hein, ces gens républicains qui s'organisaient comme ça en secte, etc. Bon, avec cette idée de la violence, du rôle des masses, etc., on voit que, si tu veux, le socialisme, c'est quelque chose de très général, c'est quelque chose, finalement, tout un ensemble d'idées très, 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 très contradictoires et très vastes, dans lequel, finalement, aussi, un certain nationalisme, je dirais, peut puiser. Et puis, Ce que je crois qu'est extrêmement important pour expliquer un peu toutes ces convergences, c'est l'importance de la situation locale. On en parlait avec quelqu'un tout à la fin du cours la dernière fois en allant prendre notre métro. C'est pourquoi le fascisme en Italie, pourquoi pas de fascisme en France, par exemple, on pourrait dire. Il y a tout un tas, évidemment, de raisons, mais on voit bien en Italie qu'est-ce qui peut expliquer que le fascisme soit venu finalement remplir un vide. Parce que justement, il y a un grand vide politique. Il y a cette question nationale qui n'est absolument pas réglée, c'est-à-dire qu'on vit pas dans le même pays. Donc, un régime démocratique ou pseudo-démocratique, finalement, n'a pas les capacités, finalement, de réunir tous ces gens-là dans une espèce de même ensemble, sauf évidemment pour la classe dirigeante de se sacrifier elle-même, on pourrait dire, de se faire harakiri et de faire des réformes qui remettraient son propre pouvoir en cause, ce qui est évidemment extrêmement difficile. Bon, en France, par exemple, la situation est différente parce que, par exemple, les paysans, la question paysanne est réglée. La question est même presque réglée depuis la Révolution française, et même peut-être presque avant, Déjà une couche de paysans, propriétaires, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment, en Italie. Les phénomènes d'exclusion sociale, d'exclusion politique, d'exclusion culturelle, évidemment, sont extrêmement fortes. Donc la question de la nation est une question très forte. La nation italienne est aussi une nation problématique, parce que c'est une nation tout à fait nouvelle, qui ne sait pas qui elle est exactement. C'est quoi les Italiens, à part Rome, l'Empire romain, vous voyez, il y a quand même 15 siècles, 13 siècles qui séparent les choses. Qu'est-ce qu'on est finalement, en dehors de parler quelque chose qui ressemble vaguement à de l'italien, on est quoi, qu'est-ce que c'est d'être italien, Donc il y a un problème de l'imaginaire. Et en plus, évidemment, cet imaginaire italien se construit à un moment donné où la société est en crise, où les Italiens partent. Imaginez une nation qui se construit sur la base de l'expatriation, finalement. C'est quand même relativement problématique. Donc que les forces soient toutes se posent toute la question du national, finalement, c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Il y a aussi évidemment un autre élément, c'est la situation révolutionnaire évidemment qui est celle de l'Italie de cette époque-là. On s'imagine pas, on n'a pas dans l'image évidemment de l'Italie une image révolutionnaire, mais l'Italie de la pré-première guerre mondiale, de la post-guerre est totalement révolutionnaire. Donc se pose la question évidemment du rapport à l'ordre, du rapport évidemment à l'unité, etc. Et évidemment, l'autre question aussi, c'est la question des élites. C'est-à-dire, autant les élites françaises sont capables, à certains moments, finalement, de se débrouiller pour, quand même intégrer des gens à l'extérieur, sont quand même capables d'accepter un certain nombre de réformes sociales, etc. Autant l'élite italienne, comme d'ailleurs l'élite espagnole, on peut faire des parallèles, est une élite qui est absolument conservatrice, c'est-à-dire qui ne veut absolument renoncer à aucune de ses prérogatives. Et donc, évidemment, l'ensemble de tout ça fait une situation qui est, je crois, propice à l'apparition d'une idéologie qui est assez de bric et de broc, et on n'a pas le temps de développer ça, mais l'Italie fasciste est une Italie où en fait, suivant les phases, les politiques sont quand même très différentes, où il y a une espèce de recherche du consensus, etc., un peu compliqué, on mélange un peu tout, et qui peut expliquer qu'une espèce de d'idéologie un peu de bric et de broc, mais qui a comme fondement l'ordre, la nation, et une certaine forme de justice sociale, parce que je dois en reconnaître que Mussolini va faire des avancées quand même relativement importantes, jusqu'en tout cas 1936, après 1936-37 ça commence à se gâter, mais une politique, qui est une politique hein, des Tchènes ou Italiens, c'est-à-dire 1900, en gros 1900, disons 25, 1935, sont des époques qui sont des époques très bénéfiques pour l'Italie. Hein, il faut le dire. Hein, on crée des autoroutes, on crée des industries, on bonifie des terres, etc. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les hommes politiques de l'époque. Hein, Churchill était un grand admirateur de Mussolini jusqu'en 1936, enfin jusqu'à 35-36, enfin la conquête de l'Éthiopie, où là ça commence à partir un peu en vrille, etc. Donc, et c'est un type qui est admiré, hein. Pas le temps de développer ça, mais c'est un type qui est reconnu, c'est un type qui est, il fait de l'Italie en fait un espèce de l'arbitre de l'Europe, parce que l'Italie est à la fois un pays prolétaire, on pourrait dire, et un pays en même temps qui est un pays reconnu, hein, un pays important. Hein. Donc il va essayer de... C'est important d'avoir l'Italie dans son camp, hein, jusqu'en 1936-37, où il va basculer dans l'autre camp, c'est important. Et tout le monde vient supplier l'Italie de l'aider et d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes diplomatiques. Hein. On l'invite aux grandes conférences, on l'écoute, c'est un personnage qui est respecté. L'Italie commence à devenir quelque chose de relativement important. Il y a une diminution quand même des migrations aussi, hein. Les Italiens sont pas plus riches mais sont moins pauvres, hein. Donc il y a une amélioration qui est très sensible dans les années 1925-1935. Après, encore une fois, les choses vont évidemment basculer dans autre chose. Voilà, merci, et encore une fois excusez-moi de...